Vous écoutez, on lit pour vous.
Les femmes se mobilisent contre les violences sexuelles en Abitibi-Témiscamingue. Un texte de Martin Guindon, paru le 20 septembre 2024 sur Ici Abitibi-Témiscamingue. Ces jours de mobilisation en Abitibi-Témiscamingue pour la journée d'action contre les violences sexuelles faites aux femmes. Au prorata de la population, il s'agit de la deuxième région la plus affectée par des infractions sexuelles, avec 270 cas par 100 000 habitants. C'est le double de la moyenne québécoise. Les demandes d'aide sont d'ailleurs en hausse dans les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, CALAX, de la région. Au point d'appui de Rouyn-Noranda, elles sont passées d'une cinquantaine il y a 10 ans à 160 l'an dernier, avec toujours le même nombre d'intervenantes. Le constat est tout aussi accablant dans les autres CALAC de la région. Ils se sont tous réunis plus tôt cette année pour faire un état de situation. Les CALAC d'Amos, de Rouyn-Noranda, du Témiscamingue et de Val-d'Or doivent maintenant tenir une liste d'attente. Du jamais vu, selon Renée Maude Robin, intervenante gestionnaire au point d'appui. Avant, les femmes nous appelaient, puis avaient un rendez-vous rapidement. Maintenant, ce n'est plus le cas, malheureusement, parce que la demande est tellement grande que nos ressources n'arrivent pas à répondre aux besoins dans l'immédiat, déplore-t-elle. Deux centres de la région, soit ceux d'Amos et de Lasarre, offrent maintenant des services aussi aux hommes et aux adolescents. Celui du Témiscamingue offre des services dès l'enfance. On assiste aussi de plus en plus au développement d'espaces sûrs, communément appelés Safe Space, dans différents festivals et événements de la région. Les failles du système judiciaire. En plus d'offrir de l'aide aux femmes et adolescentes victimes de violences sexuelles, les CALAC sont aussi engagés dans la lutte. Ils dénoncent en chœur les failles du système judiciaire, dont les délais qui mènent parfois à des arrêts Jordan ou à l'abandon des procédures. Ou encore, pour éviter ces arrêts de procédure, il y a des négociations qui se passent entre avocats sans consulter la victime, qui va se sentir forcée d'accepter et qui, de toute façon, n'a pas de voix au chapitre. S'insurge Andréane Brouard, intervenante au CALAC Abitibi à Amos. Les CALAC rappellent que, malgré leur pression et les 190 recommandations du rapport « Rebâtir la confiance » déposé en 2020, bien peu de choses ont changé sur le terrain. Donc, ça fait 4 ans déjà pour ces 190 recommandations et on voit juste la situation se détériorer. Qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce que ça va se passer? On est toujours en attente, déplore Andréane Brouard. Des activités dans 4 villes. Des activités publiques ont donc lieu à Amos, Lasarre, Lorainville et Val-d'Or. Elles poursuivent plusieurs objectifs, rappelle Ariane Mignot du regroupement des femmes de l'Abitibi-Témiscamingue. Le premier, c'est la visibilité, d'indiquer à la population que c'est des réalités qui sont bel et bien vécues par des femmes d'ici. C'est aussi le moment de faire de l'éducation populaire pour être capable de reconnaître des situations où il y a eu des violences sexuelles. On se rassemble pour essayer de guérir ensemble aussi, explique-t-elle. C'était Les femmes se mobilisent contre les violences sexuelles en Abitibi-Témiscamingue, un texte de Martin Guindon, paru le 20 septembre 2024 sur Ici Abitibi-Témiscamingue.
Festin ou famine? Notre nouvelle réalité alimentaire. Un texte de Sylvain Charlebois, paru le 26 septembre 2024 dans La Presse. Alors que les consommateurs subissent une pression économique et voient leurs habitudes alimentaires évoluer, on remarque une grande transformation dans la manière de consommer la nourriture partout au pays. Malgré les défis, Notre secteur de la restauration fait preuve de résilience et d'adaptation, même si les manchettes racontent autre chose. Ces dernières années, la manière dont les Canadiens consomment des aliments a profondément changé. Les données de Statistique Canada démontrent qu'au moment où les ventes au détail d'aliments déclinent, celles du secteur de la restauration font preuve d'une remarquable résilience. Actuellement, le Canadien moyen dépense 246,19 $ par mois en épicerie, un montant légèrement supérieur au plus bas seuil historique de 241,19 $ enregistré en mai 2024. Malgré ces résultats modestes, le secteur du commerce de détail alimentaire reste morose. Les consommateurs se tournant davantage vers des solutions à bas prix, comme les produits et marques en réduction et les magasins à 1 $. Parallèlement, la fréquentation des banques alimentaires a considérablement augmenté, ce qui reflète un changement dans le comportement des consommateurs et met en lumière les tensions économiques. Ce changement s'accentue dans le contexte des pressions inflationnistes qui ont commencé en 2022. Contrairement aux manchettes généralement négatives, l'industrie de la restauration affiche de solides résultats de vente depuis le milieu de l'année 2021. Les Canadiens dépensent désormais en moyenne 186,95 $ par mois dans les restaurants, un montant qui inclut les services de livraison de nourriture, mais exclut les lieux où l'alcool est principalement servi. À ce jour, les Canadiens allouent 43 % de leur budget alimentaire aux services alimentaires contre 37 % en 2019, l'année précédant la pandémie. Avec des dépenses records dans les restaurants de 188,41 $ en décembre 2023, nous anticipons que ce niveau supérieur pourrait être battu d'ici la fin de l'année en cours. Malgré de nombreuses fermetures au cours des dernières années, les restaurateurs semblent s'adapter avec succès à un marché en rapide évolution. Selon Restaurants Canada, le pays compte au-delà de 97 000 restaurants, employant près de 1,2 million de personnes, des données semblables à celles de 2019. Cela équivaut à environ 2,93 restaurants pour 1 000 Canadiens, un ratio relativement stable malgré les défis de la pandémie et des confinements qui ont suivi. Fait notable, la Saskatchewan affiche le ratio le plus élevé avec 3,1 restaurants pour 1 000 résidents, tandis que l'Ontario et le Québec figurent au bas de l'échelle avec respectivement 2,9 et 2,8 établissements pour 1 000 habitants. Ces données révèlent un virage progressif vers un marché orienté davantage vers les services alimentaires au Canada, une évolution surprenante compte tenu de la couverture médiatique largement négative, notamment les rapports sur la fatigue liés au système de pourboire. Toutefois, la situation au Canada diffère encore sensiblement de celle des États-Unis, où près de 54 % du budget alimentaire est dépensé dans les restaurants, bien que le Canada comble lentement cet écart. Les voyages constituent un moteur important de cette tendance. Les aéroports sont animés et les croisières sillonnent le monde. Fait intéressant, Le travail à domicile ne semble pas avoir freiné les ventes dans les services alimentaires. En fait, de plus en plus de Canadiens choisissent de manger au restaurant plus fréquemment, ce qui a stimulé la demande pour les services de livraison de nourriture. Malgré les récits médiatiques persistants, prédisant la disparition de l'industrie des services alimentaires, les preuves statistiques contredisent ces affirmations. Alors que l'inflation et les changements démographiques ont poussé les consommateurs à réduire ou à ajuster leurs dépenses d'épicerie, de nombreux Canadiens restent fidèles aux établissements de restauration, même si les prix au menu ont augmenté plus rapidement que l'inflation des aliments en épicerie depuis 6 mois. Ce scénario suggère que l'inflation affecte les Canadiens de manière inégale. Certains ressentent à peine la pression, tandis que d'autres luttent en silence. La croissance de notre population ne nous a pas enrichis en tant que nation. Au contraire, elle a entraîné une fragmentation financière et économique accrue avec un PIB par habitant au Canada, atteignant des niveaux dangereusement bas. Le prix des aliments semble se stabiliser et la plupart des analystes prévoient que les consommateurs bénéficieront bientôt d'un certain répit. La place que les services alimentaires occuperont dans la vie des Canadiens à l'avenir reste aléatoire. Alors que nous naviguons à travers ces changements, le paysage de la consommation alimentaire au Canada continue d'évoluer de manière dynamique. C'était « Festin ou famine, notre nouvelle réalité alimentaire ». Un texte de Sylvain Charlebois, paru le 26 septembre 2024 dans La Presse.
Alcool et santé, un débat scientifique houleux. Un texte d'Amélie Pineda et Stéphanie Vallette, paru le 9 octobre 2024 dans Le Devoir. Éduc'alcool lancera pour la première fois à la mi-octobre une campagne sans son slogan « La modération a bien meilleur goût ». L'organisme a également retiré de son site Internet en 2022 les notions de quantité de consommation à faible risque et a décidé de mettre l'accent sur les raisons qui poussent les Québécois à boire. Ces changements ont lieu dans la foulée de la publication des nouvelles limites recommandées par le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, CCDUS, indiquant qu'aucune consommation d'alcool n'est sans risque. En 2011, le CCDUS avait publié un rapport financé par Santé Canada intitulé « Repères canadiens sur l'alcool et la santé » qui recommandait la fameuse limite hebdomadaire de 15 verres pour les hommes et de 10 verres pour les femmes, longtemps promue dans les publicités d'éduc'alcool. Un peu plus d'une décennie plus tard, une mise à jour de ces repères a été effectuée par les mêmes experts scientifiques qui sont arrivés à une conclusion bien différente. Il n'existe aucune limite de consommation d'alcool sans danger. Bien que Santé Canada n'ait pas encore entériné ces nouvelles recommandations, il a accordé au CCDUS une somme supplémentaire de 2 millions de dollars sur 2 ans pour la période 2023-2025 pour éclairer l'élaboration d'outils de mobilisation et de diffusion des connaissances adaptées qui communiquent les risques et les méfaits de la consommation d'alcool à diverses populations du Canada. Le cabinet du ministre fédéral de la Santé mentale et des dépendances a fait savoir au Devoir que des discussions avaient lieu avec les différents acteurs concernés et que les lignes directrices définitives seront le résultat de ces discussions futures auxquelles le CCDUS contribuera. Guerre d'experts. La publication du rapport du CCDUS en janvier 2023 a permis de constater la présence d'une guerre de clochers dans la recherche sur l'alcool et la santé. De virulentes critiques sont venues de la part de chercheurs de l'International Scientific Forum on Alcohol Research, ISFR, qui ont remis en question la méthodologie utilisée par le CCDUS et qui ont avancé que 3 experts ayant travaillé sur les nouvelles recommandations avaient des liens avec Movendi International, un mouvement prônant un mode de vie sans alcool. Le Devoir a consulté la déclaration de conflit d'intérêts remplie par les auteurs des nouveaux repères canadiens. 3 des 24 experts scientifiques ont en effet déclaré avoir participé à un événement commandité par Movendi International entre 2018 et 2020. Mais le comité de surveillance chargé d'évaluer et de juger leurs intérêts n'a noté aucune préoccupation concernant les conflits d'intérêts dans ces 3 cas. « Je bois moi-même de l'alcool », lance encore agacé Tim Stockwell, un des auteurs de l'étude. « L'industrie de l'alcool essaie de faire croire que nous sommes un groupe partial de prohibitionnistes et de militants extrémistes alors que nous ne faisons que rapporter les preuves de manière impartiale », ajoute celui qui a dirigé le Canadian Institute for Substance Use Research, de l'Université de Victoria de 2004 à 2020. S'il parle de l'industrie de l'alcool, c'est que des membres de l'ISFR ont des liens avec elle. La chercheuse australienne Craina Stockley, co-directrice de l'ISFR, a travaillé de 1991 à 2018 à l'Australian Wine Research Institute. Elle a admis qu'il arrive que des chercheurs de son organisation acceptent des fonds de recherche de l'industrie, puisque le financement est difficile à obtenir des gouvernements, mais assure que les membres de l'ISFR sont des scientifiques indépendants. Une indépendance remise en question par le Dr Stockwell et le Dr Peter R. Butt du Collège de médecine familiale de l'Université de la Saskatchewan qui a co-présidé les 2 versions de recommandations du CCDUS. Ce sont des scientifiques qui viennent de laboratoires où la recherche est financée par l'industrie, affirme le Dr. Bott. C'est donc une approche partiale en faveur de l'industrie de l'alcool, et ce sont ces individus que l'industrie va chercher pour dire qu'il y a une controverse à propos des connaissances sur l'alcool. L'industrie de l'alcool utilise le même manuel que celui utilisé par l'industrie du tabac dans le passé. Un problème de vulgarisation. Peter R. Butt considère que la mise à jour des recommandations a surtout été critiquée parce qu'elle ne faisait pas l'affaire de l'industrie de l'alcool. Les chiffres précédents que nous avons atteints en 2011 étaient satisfaisants pour l'industrie. Cependant, la science a évolué et nous avons une meilleure compréhension de la relation entre l'alcool et la santé. Plus on boit, plus cela devient problématique. Nous avons également été beaucoup plus transparents en raison des preuves que nous avions concernant la relation entre l'alcool et le cancer, précise-t-il. L'alcool est un carcinogène de catégorie 1, selon l'Organisation mondiale de la santé, et cela est connu depuis les années 1980, mais les preuves sont devenues de plus en plus solides, indique-t-il. Avec le recul, le Dr. Bott estime que le fruit de l'analyse effectuée par les experts qu'il chapeautait a surtout été maladroitement vulgarisé auprès du grand public. Notre principale recommandation était que toutes les personnes vivant au Canada devrait envisager de réduire la quantité d'alcool qu'elle consomme. Point final. Nous n'avons pas dit que personne ne devrait boire plus de 2 verres par semaine. En général, nous encourageons simplement les gens à boire moins, car cela améliorera leur santé. Il existe de très bonnes preuves à ce sujet. Il ne s'agit pas d'abstinence, mais simplement de dire que moins, c'est mieux. Depuis la publication du rapport du CCDUS, deux nouvelles études crédibles, l'une produite par l'Organisation mondiale de la santé, l'autre publiée dans le Journal of the American Medical Association, ont mené à des conclusions similaires. C'était « Alcool et santé, un débat scientifique houleux », un texte d'Amélie Pineda et Stéphanie Vallette, paru le 9 octobre 2024 dans Le Devoir.
L'hémorragie financière doit cesser. Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 9 octobre 2024 dans La Presse. Grâce au documentaire de Véronique Cloutier sur la ménopause, ses effets sur les femmes n'ont jamais été aussi présents dans l'espace public. Il est maintenant temps que les entreprises se mettent au diapason. La docteure Catherine Falardeau, une ex-urgentologue qui s'est spécialisée en hormonothérapie, se demande depuis longtemps pourquoi le message des professionnels de la santé des femmes n'arrive pas à passer dans le monde des affaires. Elle en a conclu qu'elle ne parlait pas le bon langage et a décidé de changer son approche. On va parler de cash, m'annonce-t-elle avec fougue. Il faut changer de vocabulaire, car on entend plus le mot « argent » que le mot « souffrance ». La médecin a conçu dans les dernières semaines une formation destinée aux entreprises. Elle souhaite faire réaliser aux patrons et à leurs employés quels sont les impacts financiers des trois phases de la ménopause et comment les réduire. Il y a moyen de faire cesser l'hémorragie financière, assure la docteure Falardeau, qui rencontre régulièrement de nouvelles patientes en arrêt de travail, ce qui coûte cher à tout le monde. En 2023, le cabinet comptable Deloitte avait chiffré les répercussions économiques de cette période de la vie marquée par des changements hormonaux. Son étude nous apprenait que les symptômes non maîtrisés provoquent des pertes de productivité pour les employeurs canadiens de 237 millions de dollars par année, l'équivalent de 540 000 jours de travail évaporés. L'ampleur des pertes financières subies par les femmes elles-mêmes s'avère encore plus colossale, à 3,3 milliards par année. Deloitte estimait aussi qu'une femme sur 10 quitte son emploi en raison de sa ménopause, une statistique troublante. D'autres refusent une promotion, réduisent leurs heures de travail ou se tournent vers un boulot moins exigeant et, par conséquent, moins payant. À 45 ans, tu n'es pas censé reculer, lance la docteure Falardeau. Les hommes ne reculent pas. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible pour les patrons d'agir. La Fondation canadienne de la ménopause leur suggère d'ajuster temporairement les tâches ou la charge de travail en fonction des symptômes ressentis. Le fameux brouillard mental et les pertes de mémoire peuvent rendre certaines responsabilités plus difficiles, tout comme la gigantesque perte de créativité observée par la docteure Falardeau. Les entreprises qui proposent un régime d'assurance collective devraient s'assurer qu'il couvre les visites chez le médecin et les traitements hormonaux prescrits. Dans le privé, la première année peut coûter jusqu'à 1 000 et dans le public, il n'est pas toujours aisé d'avoir accès à un professionnel. Le coût d'autres spécialistes, physiothérapeutes, spécialistes du plancher pelvien, nutritionniste pour la gestion du poids, acupuncteur, physiothérapeute, etc., devrait aussi être couvert. Une autre bonne idée, permettre aux femmes d'avoir le contrôle sur la ventilation ou le niveau d'humidité autour d'elles. Il faut aussi que les uniformes de travail respirent, que les femmes aient accès à des douches et à des casiers pour y garder des vêtements de rechange. Les entreprises devraient même réfléchir aux pauses toilettes pour qu'elles soient flexibles et facilitent la gestion des saignements. Dans un bureau, ce n'est pas un enjeu, mais dans une société de transport public, c'est plus compliqué. Les employeurs peuvent créer une culture sans tabou et proposer des formations. Même si Google existe, ce n'est pas saugrenu, tant les informations en ligne sont contradictoires. Bien des femmes ignorent que les symptômes de la préménopause peuvent commencer dès la trentaine et que leur insomnie, leur angoisse ou leurs symptômes dépressifs sont peut-être dus à une baisse hormonale, constate la docteure Falardeau. Le seul fait de savoir, de comprendre, peut apaiser les sentiments désagréables. Bref, ce ne sont pas les façons d'atténuer les impacts de la ménopause sur le travail qui manquent. Il suffit d'avoir un peu de bonne volonté et de comprendre que la vie des femmes, au fil des décennies, a drôlement changé. Les symptômes de la ménopause ne sont peut-être pas plus pénibles aujourd'hui qu'à d'autres époques. Mais dans toute l'histoire, il n'y a jamais eu autant de femmes très éduquées occupant des postes haut placés dans des entreprises. La grande différence est là. Les femmes ont aussi eu leurs enfants à un âge plus avancé, de sorte qu'à 50 ans, elles doivent encore s'occuper de leurs ados, bien souvent, ce qui ajoute à la lourdeur de leurs tâches quotidiennes. Le sujet commence aussi à faire tache d'huile aux États-Unis. Le New York Times s'y est récemment intéressé après que la Menopause Society eut lancé un programme aidant les employeurs américains à soutenir les femmes. Au sud de la frontière, la ménopause coûte 1,8 milliard US par année aux entreprises, selon une étude parue en 2023. Mais les aménagements y sont encore rares. La Grande-Bretagne serait au contraire à l'avant-garde. Catherine Falardeau croit que nous sommes présentement à un tournant dans la prise de conscience collective. C'est le hashtag MeToo des hormones, plaide la médecin. Vivement la fin des tabous et des farces plates sur les bouffées de chaleur. C'était « L'hémorragie financière doit cesser », un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 9 octobre 2024 dans la presse.